Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et c'est l'heure de votre consultation patrimoniale du mercredi. Chaque semaine, vous en avez l'habitude, Radio Patrimoine réunit les meilleurs experts et pendant une petite heure, eh bien, ils sont là à votre service pour vous apporter leur éclairage sur une actualité liée à la gestion de patrimoine, sur un produit ou un autre susceptible d'enrichir vos placements ou sur une technique pour gérer au mieux votre épargne. Alors au sommaire de ce 29e numéro de Cœur de patrimoine, on va mettre en lumière une solution innovante qui se distingue dans un environnement financier parfois incertain, les produits structurés. Et puis, alors que 2024 touche à sa fin, on causera marché, on explorera un peu les différentes classes d'actifs sans en omettre aucune, en tout cas, on essaiera. Et puis, on mettra aussi, bien sûr, quelques perspectives sur 2025. Enfin, on explorera un actif dont on parle pas mal, les infrastructures. C'est parti pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on rentre donc dans le vif du sujet en accueillant Clément Lemaire. Bonjour Clément.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être là dans le studio de Cœur de patrimoine, le directeur général d'IRBIS. On va parler de ces produits structurés, mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, quelques mots pour présenter IRBIS.
Alors IRBIS, on est une société indépendante qui a été créée fin 2015, qui est dédiée à la commercialisation et à la distribution de produits structurés pour les professionnels de l'épargne et les institutionnels. On est une équipe de 25 personnes aujourd'hui. On est un des leaders sur le marché des produits structurés, je dirais leader indépendant, avec plus de 2 milliards de collectes sur 2024. Voilà, on est une société qui s'est fortement développée sur ce marché-là avec une qualité de service souhaitée en tout cas par nos partenaires, avec un outil digital dédié aux produits structurés qui a fait notre grande force et notre différence lors du lancement de la société. Et on essaie d'être présent au quotidien avec tous les professionnels de l'épargne pour les accompagner sur la classe d'actifs des produits structurés.
Alors justement, ces fameux produits structurés, on en entend beaucoup parler, surtout en ce moment. Quels sont les deux, trois principes majeurs ou facteurs qui expliquent finalement cette forte croissance des dernières années sur ces produits structurés ?
Alors la première, c'est, je pense, la performance des produits, puisque c'est vrai qu'on a eu des marchés certes porteurs sur les 5 à 8 dernières années, mais avec quand même pas mal de soubresauts. Et ces produits-là, ils ont très bien traversé ces phases de crise. On pense à la crise du Covid, bien entendu. On pense à la guerre en Ukraine. Ces produits-là ont généré de la performance dans des conditions de marché difficiles. Et ce qui rassure, je pense, les clients finaux, parce qu'on pense aussi au CGP, mais il y a aussi les clients finaux derrière, c'est ce cadre d'investissement contractuel. On y reviendra peut-être juste après. C'est cette formule contractuelle établie entre l'émetteur du produit et l'investisseur qui rassure les épargnants et qui leur permet d'avoir surtout une forte visibilité sur le risque qui est pris sur le capital, mais aussi sur les perspectives de rendement.
On dit souvent, finalement, ce sont des produits innovants, personnalisés, c'est ça ouais. Aussi qui marche ?
Alors, leur grande force, c'est qu'ils ont la capacité, de s'adapter à tout type d'investisseur, un client plutôt âgé qui a un niveau d'aversion au risque assez fort, ou une trésorerie d'entreprise qui veut placer un excédent de cash, ou un client très ambitieux sur les marchés qui veut prendre un peu plus de risque. On peut adapter chaque formule de produit à chaque investisseur et surtout, on peut adapter les horizons d'investissement. Et ça, c'est la grande force des produits structurés, c'est qu'ils sont personnalisables et ils peuvent surtout s'adapter à tout type de clients.
C'est un produit supplémentaire dans la gamme de l'épargne. C'est donc ce qu'on appelle, dans le jargon un petit peu patrimonial, une unité de compte, une UC, qu'on peut utiliser de différentes façons. Les UC, comme on dit, traditionnelles, on a vu que parfois, elles souffraient un petit peu. Enfin voilà, on a vu, par exemple, les SCPI qui avaient quelques difficultés qui interrogeaient. On a vu, voilà, certaines. Et pas vraiment ces produits structurés, on le disait, qui ont connu plutôt une histoire assez florissante ces derniers temps en termes de rendement, notamment en dépassant souvent en rendement moyen les 6%. Comment ils y parviennent ? Comment on fabrique finalement une performance comme ça ?
C'est assez simple. La base du produit structuré, c'est qu'il peut être lancé à tout moment. Par exemple, chez IRBIS, on lance plus de 600 produits par an, ce qui est significatif. Ça fait plusieurs par jour, techniquement. Et en fait, un produit structuré va pouvoir être lancé dans un bon momentum de marché et donc augmenter ses chances de performer forcément ou de déclencher sa promesse de remboursement anticipé lorsqu'il est lancé au bon moment.
Parce qu'en fait, on chope, allez, j'allais dire...
Ouais, le point d'entrée.
Ouais, on travaille exactement, on se dit, tiens, là, il y a une opportunité, on la saisit.
Exactement. Mais la grande particularité de ces produits-là, par rapport aux autres unités de compte, comme vous venez de le dire, c'est que le point d'entrée n'est pas déterminant. Et je vais expliquer pourquoi. C'est qu'un produit structuré va permettre de générer de la performance, même dans un marché difficile, je dirais un marché baissier. À titre d'exemple, on peut verser un coupon annuel de 6% si le marché baisse de 20%. Il y a peu d'actifs aujourd'hui qui permettent de le faire. Et donc, pour synthétiser, je dirais que ces produits-là, ils vont venir en complément des autres unités de compte. On a parlé d'immobilier, on parle des UC actions ou obligataires. Ils vont venir en complément parce qu'ils vont permettre de générer de la performance dans des phases de marché inexploitables par les instruments financiers traditionnels, je dirais les OPCVM traditionnels ou même les trackers aujourd'hui qui connaissent un franc succès. Ces produits structurés, ils vont avoir un niveau de risque asymétrique et donc ils vont venir parfaitement s'intégrer dans les allocations d'actifs.
Vous nous dites, on fabrique quasiment plusieurs produits par jour, entre guillemets, et vous n'êtes pas les seuls. Ça veut dire qu'il y a une diversification énorme. Exactement. De ce produit structuré. En fait, il n'y a pas un, il y a une myriade de produits structurés. C'est ça, c'est aussi ça qui permet que chacun trouve chaussure à son pied, que ça apporte un avantage à l'investisseur.
Ben, tout à fait. Vous avez des produits, par exemple, qui sont mutualisés pour un grand nombre d'investisseurs, notamment pour les clients qui ont une surface financière un peu plus petite. Ils vont avoir accès à certains produits qui sont mutualisés. Et à côté de ça, le client qui est très averti, qui a un niveau de compréhension de ces produits-là extrêmement poussé, il va pouvoir créer sa propre solution. À titre d'exemple, aujourd'hui, on peut créer un produit sur mesure pour à peu près 100 000 euros dans la plupart des banques. Donc, même si c'est un montant financier très élevé, dans la clientèle patrimoniale, ça reste un montant qui est assez accessible par rapport aux autres solutions sur mesure que l'on peut trouver sur le marché. Les produits structurés sont personnalisables pour tout type d'investisseur.
Alors, on a un gros défaut en France, c'est qu'on a une mauvaise éducation. On a été biberonné avec un livret A et un fonds euro. Bref, des garanties partout et la certitude absolue de ne pas vouloir prendre de risques ou presque. Et justement, ces produits structurés, ils peuvent être risqués. Et pourtant, le retour des taux a permis aussi de leur apporter une forme de garantie, c'est ça ? Alors, maintenant des produits structurés à capital garanti.
Exactement. Alors, la particularité d'un produit structuré, c'est que c'est une émission obligataire de la part d'une banque. Et forcément, lorsque les taux remontent, le rendement des obligations, lui aussi, sur les nouvelles obligations, j'entends, il va monter. Et c'est vrai qu'on a navigué entre 2015 et 2020 dans des taux quasiment à zéro, voire négatifs. Et donc, les produits structurés étaient uniquement utilisés pour aller en alternative au marché actions, au placement directionnel sur les marchés actions. Et avec la hausse des taux, on a pu répondre à certaines problématiques qui sont la trésorerie d'entreprise veut placer un montant de trésorerie sur une durée de 5 ans avec un rendement garanti. Eh ben, on peut le faire aujourd'hui avec un produit structuré. Et la grande richesse aussi de ces produits-là, c'est qu'on a aujourd'hui, sur le marché français, grâce à des acteurs comme Airbus, mais à d'autres, un grand nombre d'émetteurs bancaires qui sont à notre disposition, qui sont à la disposition des professionnels de l'épargne et donc des investisseurs. Et ces produits-là vont avoir une particularité, c'est qu'on peut mettre en concurrence les différentes banques pour aller chercher de la meilleure rémunération pour l'investisseur. Donc, c'est vrai que la hausse des taux, ça a permis le retour de ces produits à capital garanti, qui ne sont pas, je précise, un substitut au fonds en euros.
Non, non.
Même si, effectivement, on est biberonné au fonds en euros, ça va venir, par contre, typiquement, compléter une poche d'un contrat. On va avoir un bonus sur le fonds en euros avec un minimum d'UC. Bah, si on a l'UC qui est capital garanti, on se retrouve avec une allocation 100% capital garanti.
Et prendre un risque, ça n'est pas avoir un accident comme on le dit souvent. Malgré tout, il faut qu'on fasse un peu de pédagogie aussi ce matin, si vous le voulez bien, Clément Lemaire, parce qu'il y a pas mal de vocabulaire dans le monde de la finance, dans le monde du patrimoine, et peut-être plus singulièrement sur ce monde déstructuré. Et il y a quelques mots qu'on croise, Phoenix, Athéna, enfin voilà. Comment est-ce qu'on doit apprendre finalement le langage du produit structuré et, emmenez-nous un petit peu, prenez-nous par la main pour celles et ceux qui les découvriraient ce matin.
Alors, dans un premier temps, il faut comprendre, on est dans le cœur du patrimoine, la construction du produit structuré, le cœur du produit structuré. Le produit structuré va être une émission obligataire d'une banque, donc on a un risque sur l'émetteur que l'on va sélectionner,
d'accord,
si c'est une banque française ou une banque internationale. Et en face de cette émission obligataire, on va avoir des options qui vont nous permettre de bénéficier ou non d'un rendement en fonction de tel ou tel scénario. Et ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est les grandes familles de produits. Vous en avez cité deux, Cédric. L'Athéna, qui est le produit le plus utilisé, je dirais c'est 70% des produits sur le marché aujourd'hui. C'est un produit qui va permettre de jouer la stabilité, voire la légère baisse des marchés actions dans le temps, avec ce qu'on appelle un effet mémoire, c'est-à-dire que si mon scénario positif se réalise dans un an, je toucherai un an de rendement. S'il se réalise dans 2 ans, 2 ans de rendement. C'est-à-dire que sur ce produit-là, on rémunère l'attente de l'investisseur.
D'accord.
Quand son scénario positif se réalise, il récupère l'intégralité du gain stocké depuis le lancement. Et le Phoenix, qui est une autre solution qu'on propose beaucoup à nos partenaires, c'est un produit qui va venir distribuer un rendement, cristalliser le gain tout de suite, même en cas de baisse de marché. J'en avais parlé tout à l'heure, on peut très bien verser un coupon de 6% si un indice ou un titre, par exemple, va baisser de 20%. Et il y a peu de solutions d'investissement aujourd'hui qui offrent la possibilité de verser du coupon même en cas de baisse.
Aujourd'hui, alors on le sait, Irbis, vous nous l'avez rappelé au début de cet entretien, s'adresse essentiellement, c'est du B2B2C, vous adressez aux professionnels. Malgré tout, cette complexité qu'il y a quand même dans le produit structuré, elle nécessite une forme de pédagogie, j'imagine aussi, auprès probablement des CGP, qui doivent ne serait-ce qu'apprendre après à le vendre à leurs clients. Vous faites de la pédagogie comme ça, développez des outils, des explications, des kits, entre guillemets, pour mieux faire comprendre le structuré ?
Alors déjà, on est au cœur de la formation, c'est-à-dire qu'on va accompagner tous nos partenaires qui nous font confiance dans la formation des produits, formation des équipes, formation des conseillers, ou formation du CGP, par exemple, s'il est tout seul, sur la compréhension de tous les éléments qui construisent le produit structuré et aussi dans la commercialisation. À ce titre, on a créé un outil, une plateforme digitale, donc Irbismap, j'en ai parlé, qui offre la possibilité à tous les professionnels de l'épargne de suivre les produits, de piloter ces produits-là et de comprendre les mécaniques de ces produits. On va d'ailleurs lancer une version Irbis Learn qui va permettre à chaque professionnel de l'épargne d'avoir un quiz et d'avoir une évaluation sur son niveau de compréhension sur les produits structurés.
Donc chacun saura où est-ce qu'il se situe,
exactement,
de quoi il a besoin.
Exactement. Et en fait, ce qui est, je pense, essentiel, c'est que nous, on fasse ce travail auprès des professionnels de l'épargne qui vont être en mesure ensuite de bien expliquer ces produits-là aux clients. Effectivement, nous, on est vigilants sur la manière dont les produits sont commercialisés. Donc, notre rôle, c'est de bien éduquer et de bien former les professionnels de l'épargne qui vont commercialiser ces produits-là.
Comment est-ce que, clairement, vous nous avez dit, on fabrique quasiment sur mesure, on en fabrique quasiment 600, plusieurs par jour. Comment est-ce que vous accompagnez finalement le client qui arrive en disant, j'ai 100 000 ou 200 000 ou 1 million d'euros à placer? Comment est-ce que vous l'accompagnez pour définir finalement son profil de risque, l'allocation qui va être la meilleure pour lui fabriquer son propre produit structuré?
Alors, la base de tout, c'est de partir du cahier des charges et de ce que veulent les clients finaux. Parce que le plus important, c'est qui va acheter ce produit. Est-ce que c'est un client plutôt prudent, un client plutôt avec un profil de risque dynamique? Donc déjà, c'est de comprendre à qui vont s'adresser ces produits-là. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir orienter nos partenaires sur une famille de produits, des produits sur indice, des produits sur titre lorsqu'on est un peu plus ambitieux. Et ensuite, on va calibrer la formule en fonction de l'objectif de rendement des clients, du niveau d'aversion au risque des clients finaux. Et donc, notre rôle, c'est vraiment de donner une feuille de route au partenaire qui va ensuite choisir sa meilleure solution. Parfois, c'est avec nous, parfois, c'est avec d'autres. Notre rôle, c'est surtout de les aiguiller dans cette feuille de route qui va arriver à la construction du produit et surtout d'être présent dans la commercialisation et surtout aussi, même si dans certains cas, on veut éviter ça, lorsque ça se passe mal, d'être présent en cours de vie du produit, d'expliquer ce qui se passe et d'expliquer que ces produits-là...
Parce que parfois...
Ça peut mal se passer. Lorsqu'on a un mauvais point d'entrée, lorsqu'on tombe sur le mauvais secteur, le mauvais titre. Et notre rôle, c'est d'éduquer nos partenaires pour qu'ils comprennent que ces produits-là, ils ont une force. C'est cette formule d'investissement contractuel.
Juste pour finir, Clément Lemaire, quelle place on doit accorder, parce qu'on est d'accord, c'est pas du cœur de portefeuille, c'est de la diversification.
Oui.
Si, un petit peu quand même.
De plus en plus maintenant.
Bon. Quelle place on doit accorder en fait à un produit structuré dans une gestion patrimoniale?
Alors, je pense que déjà, il faut en avoir plusieurs. Il ne faut pas en avoir qu'un seul.
D'accord.
Il faut diversifier son portefeuille, ça c'est la base de tout. Mais il faut aussi diversifier les produits structurés. Il faut avoir des produits structurés. Parfois, on a la chance aujourd'hui d'avoir des produits garantis, donc là, on peut en mettre une partie plus importante si on a un profil de risque assez prudent. Moi, je dirais entre 15 et 25% du portefeuille en fonction du niveau de risque, en fonction des objectifs du client final. Ce qui est important, c'est d'en avoir plusieurs, donc de diversifier les thématiques, diversifier les émetteurs. On parlait de risque bancaire d'ailleurs. Notre rôle, c'est d'assurer la diversification des émetteurs. Si on a 5 produits structurés avec 5 émetteurs différents, je trouve que c'est une très bonne chose. Et d'essayer de mixer toutes les thématiques et de mixer à la fois la garantie et les produits un peu plus ambitieux.
Finalement, on gère un produit structuré comme on gérait une exposition action ou obligataire.
Alors, la différence, c'est qu'il n'y a pas de gestion en proprement dit. Il y a une règle du jeu qui est établie.
Il fallait se dire, faut pas que je fasse que de l'auto.
Exactement.
Pas
Exactement. C'est lorsqu'il y a une correction sur un secteur spécifique, eh bien on va rentrer sur ce secteur-là. Lorsqu'on veut mettre des montants plus importants, on va peut-être jouer des thématiques un peu plus larges, donc des indices un peu plus diversifiés. Et si on a la chance d'avoir accès à des produits garantis, eh bien là, on va pouvoir immobiliser une partie de son patrimoine sur une durée un peu plus longue avec une garantie du capital.
Les produits structurés, décortiqués ce matin par Clément Lemaire pour IRBIS. Merci d'être passé sur Radio Patrimoine ce matin et à très bientôt.
À très bientôt Cédric, merci.
Et Cœur de Patrimoine se poursuit, on se retrouve dans un instant.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on poursuit bien évidemment notre voyage au cœur de votre patrimoine et on accueille ce matin Antoine Andréani, bonjour.
Bonjour Cédric.
Pour XTB France et on va... Allez, profitez de cette fin d'année, on va commencer à tirer quelques bilans et à ouvrir peut-être quelques perspectives. Déjà, voir un petit peu comment vous regardez, comment vous analysez les performances 2024.
Eh bien, on a le S&P 500 qui surperforme largement le CAC 40, 25%, alors que le CAC 40 est en négatif, moins 3% à ce jour. C'est un marché qui est toujours le même depuis 2009. On est dans un marché haussier très fort, très résilient, qui n'a peur de rien. Qui se sert de prétexte pour acheter la bourse dès qu'il en a l'opportunité, et donc très résilient parce qu'il a traversé toutes sortes d'événements absolument qui auraient causé sa perte avant 2009-2008. Donc on a tout eu, je ne vais pas tout vous refaire.
Ouais.
On a eu la pandémie, l'équivalent d'une troisième guerre mondiale économique synchronisée partout. On a une hausse des taux, de l'hyperinflation. Et donc ce marché est très fort et il est soutenu par trois moteurs, grosso modo. Premier moteur, c'est le thème de l'intelligence artificielle qui a lancé Nvidia au zénith. Nvidia qui est à présent à 3700 milliards de capitalisation. Et donc ce moteur est très puissant depuis octobre 2023. Et donc voilà, chaque année pourrait être un petit peu la même. Deuxième moteur, c'est la confiance qu'ont les investisseurs dans la politique des banquiers centraux, notamment de Powell. Donc voilà, les banquiers centraux, ils accompagnent une inflation qui est déclinante, qui diminue. Et le troisième moteur, on n'en parle pas souvent, ce sont toujours les poches de liquidités qui ont été insérées, injectées pendant la pandémie. Donc il y avait 9 000 milliards d'injectés, il y en a peut-être un tiers qui continue de se promener et donc qui sont partis se loger dans Nvidia notamment.
Quand on vous écoute, on a l'impression effectivement qu'il y a des forces dingues sur ces marchés.
Oui.
Et que... Effectivement, ils ont tout vu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait encore influencer les indices de nature à changer peut-être un peu la donne ou pas? Il y a quelque chose où on se dit finalement, ce marché, enfin, je veux dire, tout ce que vous venez de décrire, bah, il forge le marché pour encore des mois ou des années.
On a basculé un petit peu dans un autre monde en 2009, quand les banquiers centraux ont pris la main et qu'ils ont décidé d'injecter quoi qu'il en coûte. Draghi l'avait dit en 2012, je crois, quoi qu'il en coûte, whatever it takes. Donc il y a une espèce de put sur les marchés qui semble, a priori aujourd'hui, indéfini, éternel. Et donc les investisseurs ont une grande confiance dans ces marchés, également parce qu'ils savent que voilà, les devises ne cesseront de baisser. Donc ils achètent de l'or, ils achètent des actions. On est dans ce qu'on appelle un boom inflationniste. On est dans une période de croissance forte et d'inflation forte. Je prends vraiment le long terme, hein, je recule beaucoup. Je parle de niveau de décennie, quoi.
Oui.
Et dans cet environnement-là, les investisseurs vont privilégier les actions. Les actions vont surperformer l'or et l'or va surperformer le dollar. Donc, ils vont automatiquement s'orienter vers les actions, les indices et l'or.
Alors, vous avez raison de regarder ces marchés sur très longue période et on devrait aussi un peu décoller le nez parfois du guidon et des indices pour prendre un petit peu de hauteur de vue sur les marchés. Malgré tout, si on rezoome un tout petit peu, on a vu que les mouvements de taux, ils avaient un peu drivé aussi tout ça sur 2023, sur 2024. Ça va se poursuivre sur 2025. On sait que du côté de la BCE, certains choix sont faits. Bon, du côté américain, peut-être qu'il y a un soupçon de questionnement du fait de l'élection de Trump et du programme de Trump qui pourrait ramener un petit peu de pression sur les prix. Mais enfin, voilà, vous vous dites aujourd'hui, c'est le mouvement de taux qui va continuer un petit peu à donner là.
Alors, il faut suivre les taux obligataires, notamment les taux en général, parce que voilà, les obligations, c'est le marché entre guillemets intelligent. Le marché action, il n'y a rien de plus bête, franchement. C'est, faut pas croire que les traders font des choses intelligentes. Ils font des choses simples qui marchent, mais ce n'est pas un marché d'intellectuels, en fait. C'est vraiment un marché qui achète le creux, buy the dip, comme disent les Américains. Donc, pour répondre à votre question, voilà, il va falloir suivre les taux. Il y a les taux à 10 ans obligataires qui sont en train de nous donner une indication en ce moment. Si jamais on casse, je crois que la valeur, c'est 4,48 précisément, 4,48%. Là, ça pourrait nous donner une indication de quelque chose qui pourrait être un petit peu plus inquiétante, notamment vis-à-vis de l'inflation. On a Trump qui est arrivé. Trump, c'est un phénomène. Il va faire du bien au monde, à l'économie, à la bourse éventuellement. Mais par contre, il est possible qu'il déclenche une petite inflation organique qui empêche l'inflation de baisser comme les marchés s'attendent.
Parce qu'il a fait toute sa campagne en tapant sur les autres qui avaient fait de l'inflation. Mais quand on regarde son programme...
Alors,
guerre commerciale, reconduction à la frontière d'immigrés non déclarés, ceci, cela, plus... Enfin voilà, ça, il ne manque pas de raison de gonfler un peu les prix, quoi.
Alors en fait, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a le risque géopolitique qui devrait être éteint. Donc l'inflation dite géopolitique ne devrait plus exister. Cela dit, elle n'existe pas vraiment parce que les marchés l'ignorent totalement, ce risque géopolitique qui est maximal depuis... octobre 2023. Ensuite, il y a l'inflation liée à l'énergie aux États-Unis. Il va relancer la production de pétrole onshore notamment, mais même offshore. Donc on devrait avoir des prix à la pompe qui baisseraient, un prix du baril qui baisserait. Et la grande inconnue, c'est comment va se comporter l'économie vis-à-vis de l'inflation. Est-ce que ça va redonner un petit coup de fouet à l'inflation? Et dans ce cas-là, Powell pourrait être un petit peu les fesses entre deux chaises. Avec d'un côté Trump qui lui dit il faut baisser les taux, et d'un autre côté oui mais je peux pas, l'inflation ne refuse de baisser, peut-être même qu'elle remonte. Donc ça va être je pense un des thèmes de 2025. Comment Powell va réagir? On sait que Trump va avoir un petit peu plus la main mise sur la Fed, il veut même créer des lois qui lui permettraient d'éjecter le chairman si besoin. Donc voilà, ça, c'est un petit côté suspense pour 2025.
Alors justement, quels sont un peu vos scénarios? Parce que tout le monde bâtit un petit peu sa gamme. Vos scénarios pour 2025, c'est quoi?
Alors, on est dans une tendance haussière très, très forte. Là, je parle vraiment même en période haute. C'est un marché vraiment très fort. Donc, il ne faut surtout pas le négliger. Sinon, on reste sur la touche. Et ça peut être très, très frustrant d'être sur la touche. Il faut être vraiment très patient, attendre les bonnes corrections. Donc moi, j'ai deux scénarios. Premier scénario, on continue comme en 2024, on continue comme les années précédentes. C'est le scénario qui est à privilégier tant qu'on n'a pas des signaux, des indicateurs qui nous prouvent le contraire. Deuxième scénario, y a un indicateur qui est super intéressant, qui est super simple à comprendre. C'est que dès que la Fed ou la BCE, mais dès que la Fed débute sa baisse de taux à partir de niveaux de taux directeurs assez élevés, 5-6%, dès qu'elle la débute, en fait, cette baisse, eh bien, on a un pic dans les actions qui est soit imminent, soit déjà effectif. Et en général...
Donc là, il faut commencer à...
Il faut regarder cet indicateur. Et en moyenne, dans l'histoire, depuis la crise de 29, on a une durée de vie, en fait, de ce marché qui est de 1 an, 12 mois, et une performance moyenne de 11%. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Peut-être que ce marché aussi, il a une durée de vie encore limitée. Autre indicateur intéressant, bon ça c'est un petit peu plus technique, c'est l'inversement de la courbe des taux, donc la différence entre les taux obligataires à 10 ans et à 2 ans, donc c'est un petit peu un différentiel entre le risque long terme et court moyen terme. Eh bien on a cette courbe qui s'est inversée, qui est en train de remonter, et en général quand elle dépasse le seuil des 0,35%, eh bien on a une récession et un marché baissier qui est accompagné de cette récession. Donc voilà des indicateurs intéressants et liés au taux.
Ouais. Vous nous avez dit tout à l'heure, parce que voilà pour les scénarios, mais vous nous avez parlé tout à l'heure, par exemple, d'NVIDIA. Aujourd'hui, on reste basé sur tout ce qui est IA, etc. Vous vous dites vraiment les grandes tendances sectorielles. Là, pour le coup, elles vont pas changer. On reste sur ce qui est devenu, j'ai envie de dire, nos grands classiques.
Exactement. Donc, on a les 7 magnifiques, par exemple, qui ont pris un poids démesuré dans la bourse, dans la S&P 500.
Oui, parce qu'on parle des performances indicielles, mais si on enlève les 7 magnifiques,
exactement,
comme vous dites,
c'est un marché qui est complètement concentré dans un petit nombre d'actions. Et donc, les 7 magnifiques, on les connaît, je vous le répète, au cas où, c'est Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Facebook. Donc, ces 7 magnifiques qui représentent environ un tiers de la capitalisation totale du S&P 500. Le top 2 représente environ 14%. Et donc, c'est des niveaux rarement vus dans l'histoire, souvent à des plus hauts historiques. Ouais. Et donc, ce marché est dépendant à présent d'NVIDIA. Ce qui s'est passé, c'est absolument extraordinaire. NVIDIA, elle était à, je sais plus combien, de 280 milliards de dollars. Je crois que c'était fin 2023. Il faudrait vérifier. Et là, maintenant, on est à 3,7 trillions de dollars.
Pour une valeur qui, il y a 10 ans, passait pour un simple fabricant de cartes graphiques pour les jeux vidéo.
Et ce marché, maintenant, est dépendant d'NVIDIA. C'est-à-dire que si NVIDIA tombe, pour des raisons fondamentales, eh bien, la bourse, en général, pourrait tomber également. Et on a cru que c'est ce qui se passait l'été dernier.
On reste donc sur ces valeurs-là ou est-ce qu'il y a d'autres, on va dire, actions ou thématiques d'investissement qui vous semblent porteuses et qu'on doit, sinon peut-être pas avoir tout de suite en portefeuille, mais au moins mettre dans son scope?
Alors ces actions, elles cannibalisent tout. C'est-à-dire qu'elles surperforment tout. Si vous jouez avec des ratios, par exemple, vous prenez le CAC 40 par rapport au S&P 500, vous avez une courbe baissière. Vous faites ça pour tout, pour tous les secteurs, c'est la même chose. Ces actions sont extraordinaires. Elles ont une marge nette moyenne de 30%, alors que le S&P 493, lui, est en dessous des 10% en marge nette. Donc, ce sont vraiment des entreprises, des actions extraordinaires qui effraient un peu, parce que maintenant, elles ont pris un poids démesuré.
Oui, c'est ça, ouais.
Et le marché en dépend. Et malheureusement, Cédric, non, je ne peux pas vous dire, par exemple, les minières d'or. Non, elles cannibalisent tout. Elles ont pris le dessus et elles risquent de continuer de surperformer jusqu'à ce qu'éventuellement elles basculent en mode bulle et que ça éclate.
Bon, il n'y a pas que le marché actions, il y a d'autres actifs qui font beaucoup parler d'eux et plus singulièrement depuis notamment la réélection de Donald Trump, il y a le Bitcoin et les cryptos, mais le Bitcoin plus singulièrement. Vous les regardez comment? Vous les considérez? Vous avez des perspectives, un travail particulier sur ces cryptos, sur le Bitcoin plus particulièrement?
Alors, le marché du Bitcoin, techniquement, est devenu quasiment aussi technique que les indices. Donc, vous pouvez l'analyser très facilement comme vous analysez les indices. Bitcoin, je le suis depuis très longtemps, depuis 2016. Ça fait un an et demi que je dis qu'il valait à 100 000 dollars. Il est tout proche, là. Il a atteint 98 500. La cible qu'ont les institutionnels, elle est à 136 000 dollars.
Ah oui, 136 000, c'est très précis.
Quand je dis ça, c'est que les institutionnels utilisent des logiciels algorithmiques décentralisés, quasiment indépendants. Et bon, moi, je fais ça depuis 10 ans, je les suis. Et ils ciblent 136 000 dollars très précisément. Il y a une autre cible au-dessus à 180 000, mais on va y aller en douceur. On va d'abord essayer d'atteindre 136 000. Et le Bitcoin est un marché fascinant. On pourrait en parler des heures, mais voilà, la cible est à 136 000. C'est un marché qui a été relancé un petit peu par Trump. Le marché était dans l'attente de quelque chose, il était en correction, il consolidait. Et puis, il y a l'élection de Trump qui est arrivée. Donc voilà, c'est un marché, aussi bien pour les actions que pour la crypto, un marché de prétexte. On attend des événements à un niveau de support. Et dès que l'événement est là, dès qu'il y a l'élection, bam, on en profite et on monte. Et donc, la première étape, c'était BlackRock qui s'insérait dans Bitcoin,
ouais.
Wall Street qui changeait de ton. On se souvient qu'il y a plusieurs années, en 2018, il y a Warren Buffett qui disait que c'était de la morora, Bitcoin. Jamie Dimon de la JP Morgan disait que c'était une fraude, une arnaque. Trump, lui, a changé un petit peu de ton. Wall Street s'est inséré dans les ETF. Et donc voilà, on a eu des planètes alignées pour avoir une dernière phase haussière à la verticale. Et voilà, Bitcoin est quasiment à 100 000 et peut-être qu'il va consolider, faire une petite correction avant d'enclencher une dernière vague haussière pour s'orienter vers les 136 000 dollars.
Voilà donc pour ces cryptos et plus singulièrement pour le Bitcoin. Vous avez dit aussi, vous avez parlé rapidement de l'or tout à l'heure. C'est vrai qu'on a toujours dit l'or, c'est la valeur refuge, entre guillemets, par excellence, etc. Il faut s'y intéresser aujourd'hui. Vous avez une vision particulière sur cette relique barbare, comme disait l'autre?
C'est un actif extrêmement populaire parce que c'est l'actif refuge par excellence, mais c'est en plus un actif, contrairement à ce que beaucoup disent, il performe. C'est-à-dire que vous regardez...
Oui, on dit l'or n'a pas de rendement.
C'est faux, c'est totalement faux. Surtout depuis 2009. On a basculé dans un autre monde. Donc depuis 2020, je vous le disais tout à l'heure, on est entré dans un monde, un boom inflationniste dans lequel les actions surperforment l'or et l'or surperforme le dollar. Le dollar a baissé de 97% par rapport à l'or depuis que la Fed existe, depuis 1913. Donc quand on dit que l'or ne performe pas, c'est totalement faux. C'est les devises fiat qui chutent en fait.
Juste pour terminer, Antoine Andréani, quels sont les risques principaux que vous pensez que l'investisseur, qu'il soit professionnel mais particulier aussi, doit absolument avoir en tête pour l'année 2025?
Récession. Une récession est possible. Il y a beaucoup d'indicateurs qui nous orientent vers une récession. Ce serait naturel. Et une récession, ça équivaut à minimum 30% de correction. L'autre indicateur qu'il va falloir suivre, c'est évidemment l'inflation. On en a parlé tout à l'heure. Si l'inflation résiste et repart un peu à la hausse, pour X raisons, ça peut toujours être un risque géopolitique, même si le risque géopolitique, je pense, va être éteint par Trump. Faudra surveiller l'inflation parce que voilà, la Fed va être un petit peu piégée. Il y aura des puissances divergentes. Ouais. Est-ce que, voilà, on peut s'imaginer plein de scénarios, l'état profond, ce genre de choses. Est-ce que l'inflation va repartir à la hausse ou pas? Ça, c'est la grande question. Et les marchés, eux, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, le deuxième moteur, ça a été la confiance dans les banquiers centraux, l'inflation qui était accompagnée par la Fed. Et si les taux directeurs, Jay Powell ne les baisse plus, il va y avoir de la tension sur les marchés financiers.
Merci beaucoup Antoine Andréani.
Merci
donc
à vous,
et
Cédric.
XTB France dans Cœur de Patrimoine. À très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on quitte un petit peu les marchés dans leur ensemble qu'on vient d'évoquer avec XTB en accueillant Gilles Langagne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, associé, fondateur d'Infraniti. Je le disais en préambule, on va parler d'infrastructure, on va regarder un petit peu cette classe d'actifs. Mais d'abord, en quelques mots, présentez-nous Infraniti.
Oui, alors Infraniti, c'est une société de gestion affiliée au groupe Generali, qui est spécialisée dans l'investissement en infrastructure durable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On investit dans la transition énergétique avec les énergies renouvelables, dans les transports avec la mobilité décarbonée, notamment les transports ferroviaires. On investit dans la transition digitale à travers les infrastructures de réseaux télécoms, les tours, la fibre, les data centers. Alors, c'est une société qui investit sur les marchés privés, donc en equity et en dette, private equity, private debt. Et puis aujourd'hui, voilà, on fait partie des grands acteurs européens. On a 75 professionnels répartis entre Londres, Paris et New York. Et on gère 11 milliards pour le compte du groupe Generali et d'autres investisseurs institutionnels. Et puis, peut-être fait intéressant, on a été un des pionniers à ouvrir la classe d'actifs à une clientèle d'investisseurs particuliers. Et donc, on gère aussi des stratégies en partenariat avec le groupe Generali qui se retrouvent dans leur contrat d'assurance vie, par exemple.
Alors, il va falloir nous dire maintenant pourquoi, finalement, cet investissement en infrastructure, on a compris dans la durabilité, etc. Pourquoi on en parle autant? Pourquoi est-ce que maintenant, on a l'impression que c'est presque un élément central dans une stratégie patrimoniale des investisseurs?
Oui, je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, c'est une société, c'est une classe d'actifs, pardon, qui répond à des enjeux de société qui sont forts. On l'a évoqué, la transition énergétique, la transformation numérique de l'économie. Et puis, c'est une classe d'actifs qui a des atouts financiers très forts et donc qui devient un bloc essentiel de la construction d'un portefeuille, à la fois des investisseurs institutionnels, mais aussi pour des investisseurs particuliers. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte des rendements stable, régulier, de long terme. Ça apporte également des rendements qui sont décorrélés d'autres marchés, en particulier les marchés actions. Et puis, comme je le disais, ça permet de donner du sens à son épargne, de financer l'économie réelle. Donc, il y a une certaine forme de proximité avec ces infrastructures.
Il y a des tendances lourdes, entre guillemets, qui domine un petit peu cet investissement, parce que vous nous avez quand même cité énormément, on va dire, de typologies d'infrastructures.
Oui, je crois que, vous l'avez compris, aujourd'hui, les deux grands segments qui tirent le marché, c'est la transition énergétique et en même temps, effectivement, les infrastructures digitales. Alors, je vais revenir sur ces deux segments parce que il y a beaucoup de tendances à l'intérieur de ces segments. Dans la transition énergétique, les énergies renouvelables avec le solaire, l'éolien, ça reste des investissements qui sont très importants et qu'on va continuer de faire et les opportunités sont là. Il faut tout de même faire assez attention à la volatilité des prix de l'électricité qu'on a vu ces dernières années. Et donc, c'est très important de bien structurer ces opérations et notamment de contrôler ces risques de volatilité sur le prix de l'électricité, par exemple avec des contrats long terme comme des corporate PPA, donc des industriels qui achètent l'électricité à long terme à prix fixe. On a d'autres secteurs qui émergent, notamment le biogaz, qui est aussi un secteur très intéressant, et puis le stockage d'électricité. Et aujourd'hui, c'est probablement un secteur qui accélère très fort parce que l'arrivée de renouvelables sur les réseaux électriques, ça crée de l'intermittence, comme vous le savez. Et donc, pour lisser...
C'est presque le nerf de la guerre.
Voilà, pour lisser la production et réguler les prix également... on a besoin de plus en plus d'infrastructures de stockage et ces projets qui étaient petits passent aujourd'hui à l'échelle et donc créent des opportunités d'investissement. Alors ça, c'est la transition énergétique. Il y a aussi la mobilité décarbonée et nous, on croit très fortement au secteur des transports ferroviaires. Et donc c'est un secteur dans lequel on investit massivement. Et puis l'autre secteur qui tire le marché, c'est évidemment la transition numérique. Alors là aussi, il y a différents secteurs. Alors nous, on investit dans les infrastructures, c'est-à-dire les tours télécoms. Alors c'est un secteur qui offre des revenus très stables parce qu'essentiellement, ce sont des opérateurs télécoms qui souhaitent trouver des partenaires financiers pour financer l'expansion de leur réseau tours télécoms. Et en échange de quoi, ils s'engagent à utiliser le réseau avec des contrats à long terme. Donc ça donne une grande stabilité, une grande visibilité sur les revenus. C'est un secteur où il y a eu beaucoup d'opérations qui a peut-être un petit peu ralenti ces dernières années. Il y a le secteur de la fibre. Alors, apporter le très haut débit au territoire, ça, c'est un secteur très important. Faut être sélectif sur le secteur de la fibre. On a beaucoup investi en soutien du plan très haut débit français, par exemple, parce que la France est un marché très organisé. Il y a des monopoles de fait qui sont créés à travers des concessions. Et donc, on comprend bien... voilà la résilience du business model. Il y a d'autres marchés, par exemple, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, qui sont un petit peu plus compliqués, sur lesquels on a été plus prudent. Et puis, il y a un dernier secteur dont il faut absolument parler, c'est le secteur des data centers, parce qu'aujourd'hui, c'est le secteur qui croît le plus vite. Évidemment...
On a parfois décrié pour leur consommation électrique.
Oui, et tout à fait, il faut en parler. Mais pour évidemment donner la tendance de fond, c'est un secteur qui avait une croissance déjà très forte avant la vague... intelligence artificielle. Aujourd'hui, cette vague arrive et on voit l'intelligence artificielle. Oui, il y a besoin de puces. On parlait de Nvidia, mais il y a aussi besoin de data centers et de connectivité. Donc, on voit les besoins croissants. Mais vous avez raison. Ce secteur-là, il doit avoir une croissance maîtrisée en termes d'empreinte environnementale. Et donc, pour nous, c'est un enjeu très important. Il faut s'assurer qu'il s'approvisionne en électricité verte et qu'il soit efficace. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le secteur télécom et des data centers en particulier rejoint celui de l'énergie parce que c'est une boucle. Il y a besoin de plus en plus d'énergie.
Et il y a des risques justement particuliers liés à ces infrastructures vertes, entre guillemets, où on est là dans le risque action et on doit le gérer comme tel.
Il y a des risques en infrastructure. On a des risques qui peuvent être d'ordre politique ou réglementaire. On le voit bien. Ce sont des secteurs qui ont le soutien des pouvoirs publics et qui parfois ont bénéficié de subventions. Donc, il faut faire attention aux business models qui sont subventionnés et bien comprendre ces enjeux-là. Il faut savoir diversifier son portefeuille, ne pas être trop concentré sur un type de technologie, un marché, un type de subvention. Je pense que c'est important. Et puis l'autre risque sur ce marché, c'est le risque de volatilité dont je parlais. Et donc là, l'infrastructure, finalement, on a l'opportunité de vraiment structurer nos opérations, comme je le disais. Donc passer des risques à des contreparties qui sont peut-être plus à même de les gérer. Ou rentrer dans des contrats long terme, comme je le disais, notamment des contrats d'achat à long terme d'électricité.
Mais lorsqu'on investit avec ces idées-là, maintenant on le sait, on a du rendement, enfin voilà, vous l'avez rappelé, mais est-ce qu'on a un vrai impact, on va dire, en fait, en clair, est-ce que cet investissement en infrastructure, il contribue vraiment à la transition énergétique, au développement durable ?
Complètement. Moi, je crois qu'on fait partie, en tout cas, des acteurs qui pensent que la finance durable, ça fait partie des leviers pour faire cette transformation. Je crois que la notion d'impact, elle est intéressante parce qu'elle a évolué. Je crois qu'aujourd'hui, on reconnaît que l'impact, pour qu'elle soit significative, il faut la mettre à l'échelle. C'est pas quelque chose de niche, en fait, de faire de l'impact. Et donc, il y a besoin de moyens très importants pour mettre à l'échelle des technologies existantes. Alors, vous l'avez compris, moi, je suis pas un investisseur en clean tech, donc on prend pas des risques technologiques, etc. Mais ces technologies qui sont éprouvées, il faut les mettre à l'échelle. Il y a besoin de capitaux très importants. Et la part du secteur privé est de plus en plus importante parce que les États ont plus forcément les moyens, avec leur niveau d'endettement, de jouer le rôle qu'ils jouaient auparavant. Donc ça, c'est fondamental. Et donc, oui, je crois qu'on a la possibilité d'avoir des impacts, surtout quand on est un investisseur qui apporte une grande partie de la structure de capital dans le long terme.
Justement, c'est, on est à la frontière du greenwashing quand on discute de ces propos-là. On a vu que les exigences des gouvernements, des règles, de la réglementation augmentaient aussi pas mal. Comment est-ce que vous le conciliez? Parce que le rendement, il peut parfois être un peu, on va dire, rogné quand le filtre devient plus compliqué. Enfin, on a vu par exemple le label ISR en France qui a de plus en plus d'exclusions au départ. Oui. Ça devient, voilà, on se dit l'univers de recherche diminue, j'ai peut-être des boîtes qui vont sortir alors qu'elles étaient un facteur de croissance. Enfin, comment est-ce qu'on appréhende un peu tout ça?
Alors, je pense que dans la classe d'actifs infrastructure, on a quand même la chance d'avoir la possibilité de concilier impact ou en tout cas investissement durable avec rendement, clairement. Parce qu'on peut choisir des actifs qui ont un rôle très clair à jouer dans la transition énergétique, si on reprend ce secteur. C'est important d'avoir peut-être une vue un peu holistique de l'investissement durable, c'est-à-dire qu'il y a la nature même de l'actif. Oui, j'investis dans un parc solaire et donc je vais produire de l'énergie durable, mais par exemple, il faut aussi traiter les sujets liés à la chaîne d'approvisionnement. Et donc, par exemple, s'intéresser aux panneaux solaires, qui les fabrique, c'est en Chine, est-ce qu'il y a des sujets, par exemple, de conditions de travail, etc. Donc, on a besoin d'avoir, et on mène des due diligence approfondies hein, sur ces sujets-là. Mais on est assez clairement capable d'aller dégager des rendements aujourd'hui en ayant une contribution positive à ces enjeux de société.
Pour terminer, comment vous mesurez, ou selon vous, quelles sont un petit peu les attentes d'un investisseur aujourd'hui, qu'il soit institutionnel ou privé, puisque vous, en plus, vous avez les deux jambes chez Infranity, et donc c'est intéressant d'avoir votre regard. Quelles sont leurs principales attentes quand ils vous disent, bah voilà, nous, on envisage d'investir dans ces solutions d'infrastructure durable? Ils attendent quoi?
Alors, je pense qu'ils attendent.
À part le rendement, parce que ça, tout le monde l'attend, on est d'accord.
Je pense qu'ils attendent. Pas forcément juste le rendement, mais ils attendent que la classe d'actifs finalement délivre ses promesses. C'est-à-dire qu'on l'a vu performer sur différents cycles. C'est une classe d'actifs qui a été très résiliente pendant les différentes crises, que ce soit la pandémie, même la crise de l'énergie avec les contrats structurés dont on parlait. Cette classe d'actifs a très bien résisté. Elle protège contre l'inflation. On connaît le contexte et donc c'est très important. Donc ces investisseurs-là, quelque part, ils l'utilisent comme un building block de leur construction de portefeuille. Il faut que ça délivre des performances à long terme avec une stabilité très forte dans les différents cycles économiques. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que clairement, ils souhaitent investir en infrastructure pour contribuer à leurs objectifs de développement durable, à leurs objectifs de transition. Vous savez que beaucoup d'investisseurs sont engagés dans des trajectoires climat, net zéro, etc. Donc, c'est un des premiers outils.
Ouais, ils ont besoin d'être sûrs de ce qu'ils font.
Ouais. Pour décarboner.
Pour exactement. Eux aussi rendre compte.
Absolument. Et puis, c'est un outil de diversification. Très important pour eux de pouvoir diversifier leur portefeuille avec cette classe d'actifs et donc la décorrélation avec ces marchés. Et donc c'est pour ça que nous, on aime bien offrir des stratégies assez pures, c'est-à-dire vraiment marché privé, soit en dette, soit en equity, et pas forcément les mixer avec d'autres classes d'actifs plus liquides.
Merci beaucoup Gilles. Gilles Langagne donc pour Infranity dans Cœur de Patrimoine, au sujet de toutes ces infrastructures liées au développement durable. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine. On se retrouve la semaine prochaine, à mercredi.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.